France Culture.
Il est 13h. Les cafés sont déjà bondés. Là-haut, dans le fort, les protagonistes du rite sont presque prêts. Nous avons été autorisés à assister à la mutation qui est en cours. Or, il faut préciser que ce que vous allez entendre a été précédé d'un repas. Un repas grillade bien arrosé.
Bonjour le Book Club, bonjour Grégory Le Floch. J'ai vraiment vibré pendant ma lecture de Peau d'ours, j'ai vibré auprès de mon perdu, votre personnage si sensible, alors que physiquement j'étais vraiment bien loin des Pyrénées.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Voix des montagnes, corps des montagnes et peau de l'ours. Aujourd'hui dans votre book club, une jeune lycéenne vit dans un village en altitude. Elle s'y ennuie à mourir, elle dit qu'elle y croise toujours les mêmes gueules. Mais elle entend les montagnes et par-dessus tout, elle est en mesure de leur répondre. Pour ce qui est du reste, elle dispose d'un téléphone portable, son cœur est secoué des mois, elle rêve de faire l'amour avec Kelly, prend le bus scolaire, établit des listes et ses camarades de classe sont plutôt cruels. Une progressive métamorphose la conduit à fuir cette cruauté et cet ennui, pour rejoindre le tout d'un vivant plus clément et plus polyphonique, surtout débarrassé des humains. Grégory Le Floch fait paraître Peau d'ours en cette rentrée d'automne aux éditions du Seuil, et il est notre invité. En fin d'émission, on jouera à chercher de la musique dans les textes pour le grand jeu des pages musicales, et il y en a plein dans le roman de notre invité, qui a presque bâti ses chapitres comme une playlist. On est ensemble pour une heure, bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Grégory Le Floch.
Bonjour Marie Richeux.
Peau d'ours, apparu aux éditions du Seuil et vous faites partie de la sélection du prix roman des étudiants de France Culture. On est ravis de vous recevoir à ce micro. Bienvenue à vous dans le Book Club. Vous avez donc la chance de rencontrer des étudiantes et des étudiants en ce moment dans le cadre de ce très beau prix, de discuter avec elles, avec eux. Ils ou elles par ailleurs échangent leurs impressions de lecture et finiront par élire leur livre préféré. C'est une belle aventure, on est ravis au Book Club de la suivre. Ici tout commence par un portrait de nos invités en tant que lectrice et lecteur, on se dit que parlant de la manière dont ils ont ou non rencontré des livres, ils commencent à nous parler un petit peu d'eux. Est-ce que vous avez grandi dans un endroit où il y en avait des livres ?
Oui, il y avait des livres. Il y avait beaucoup de livres. Mes parents sont lecteurs, ma sœur est lectrice. On me lisait des histoires. Mais ça ne veut pas dire que petit enfant, j'étais un lecteur. Le primaire, on me lisait encore des histoires, et j'avais du mal à trouver des choses qui m'intéressaient, et la littérature pour ados, pour enfants, me laissait totalement indifférent. Et c'est au collège que je suis devenu un grand lecteur, mais je pense en quelques jours, avec des... quand j'ai pu accéder à de la littérature d'adulte.
Alors peut-être on va revenir dans un instant sur cette accession de la littérature d'adulte, mais restons un instant sur le primat de la voix d'une certaine manière et le rapport entre la voix et la lecture, puisque vous dites à l'école primaire on me lit encore des histoires, et je pense que c'est très intéressant pour ce qu'on va dire ensuite et la manière dont vous écrivez avec des voix humaines et non humaines votre dernier roman. Qu'est-ce que ça a peut-être construit, le fait que dans un premier temps les mots et la littérature soient passés par la voix de proches, on imagine?
Mon père et ma mère me lisaient et ils faisaient des voix. Par exemple, il lisait Picsou en faisant tout un tas de voix. Et je me souviens de ma mère qui m'a lu Tartarin de Tarascon parce que je devais le lire à l'école, je crois en CM2. Et je n'arrivais pas à lire une page. J'avais l'impression de lire le livre le plus ennuyeux du monde. Et ma mère me l'a lu. Même des Sherlock Holmes, elle me lisait des Sherlock Holmes. Et c'est vrai que c'est des moments... Alors souvent, c'était avant de se coucher, dans le lit, c'est des moments agréables, c'était souvent des histoires sympas. Et c'est hyper capital, ça m'a créé une sorte d'imaginaire. Mais c'est vrai, lié à la voix, j'y avais pas pensé. Et dans ce que j'écris, il y a toujours des voix que j'incarne, en fait.
Et là, plus encore, c'est vraiment un tissage de voix, on y viendra dans Peau d'ours. Donc vous parlez du collège, la découverte de la littérature pour adultes, ça se fait avec quel texte ?
C'est grâce à mon prof d'anglais. En cinquième, on a étudié les Odes du Hurlevent. Et il nous avait montré le film avec Juliette Binoche. J'avais adoré, j'avais trouvé
Le film ou le texte de Bronté ?
On avait commencé par des extraits en anglais, puis tout de suite il nous a montré Juliette Binoche, une grande robe noire, du vent, etc. Moi j'avais trouvé ça fascinant, et je l'ai lu en français tout de suite, et alors là je n'ai fait qu'en parler. Pendant, ça a été...
À qui ?
À ma mère, tout le temps. J'en parlais tout le temps, tout
en
le temps.
En quel terme ?
Bah, je racontais tout ce qui se passait, je le relisais, et je suis normand, alors j'ai vu la Normandie comme si c'était l'Angleterre.
Ça s'y prête.
Ouais, mais quand on n'a pas lu Les Hauts-d'Hurlevent, on se dit pas, tiens, il peut y avoir un drame, le vent, les arbres sans feuilles, les chemins creux, c'était le monde quotidien. Et tout d'un coup, c'était le monde de Heathcliff et de Catherine Earnshaw, et ça m'a... transporté. Alors là, j'ai tout lu.
Mais le fait qu'il y ait une coïncidence possible entre des paysages qui vous étaient intimes et ce texte-là, ça a joué dans votre adhésion à ce texte ?
Bah, j'ai calqué, en fait. Je pense que si j'étais né dans les Pyrénées, j'aurais
pas quand même... problème, ça aurait été les Hauts-d'Hurlevent dans les Pyrénées.
Ouais, il y a eu des adaptations dans les montagnes argentines des Hauts-d'Hurlevent. Ça veut bien dire qu'on peut trouver des ressemblances. Non, je voulais... totalement m'immerger. Et peu importe, je pense, ce qu'il y avait autour de moi, j'aurais trouvé un lien.
Donc ça, c'est votre première entrée fracassante avec la grande littérature ou la littérature pour adultes, Grégory Le Floch. Ensuite, ça dessine quoi comme route de lecteur pour
le gothique.
C'est très clair.
Le gothique, j'ai acheté tout ce que je pouvais trouver de gothique. Le Moine de Lewis, je les ai encore tous chez moi dans des super belles éditions. Je ne sais même pas comment je les ai trouvés. Parce qu'il n'y avait pas non plus de grande librairie là où je suis né. Le Château d'Otrante, des textes un peu fondateurs. Et je pense que je trouvais les noms dans les préfaces ou dans les...
Pour rebondir de texte en texte.
Ouais. Dans l'édition Folio des Sœurs Brontë, on pouvait trouver des titres et j'achetais tout ce qui tournait autour. Il y avait aussi, quand j'étais au collège, ça venait de sortir, c'était un recueil de nouvelles qui s'appelait Les Fantômes des Victoriennes, donc des nouvelles d'autrices anglaises et avec des fantômes. J'avais trouvé ça, mais fascinant.
Qu'est-ce qui vous plaisait ?
Je sais pas.
Ou qui vous plaît peut-être encore d'ailleurs, encore. Je sais pas. Encore, ouais, encore.
Je rêve un jour d'écrire une sorte de Hauts-d'Hurlevent à la française.
Vous le ferez, j'en suis certaine.
Bah, il faut trouver l'énergie de se confronter en fait à la hauteur, à une telle autrice. Moi qui. Parce que du coup, on est parti avec ma mère en pèlerinage. On est allé dans leur village. Et j'ai ramassé des cailloux du cimetière, de la terre du cimetière.
Oui, c'est sérieux.
Bah oui, les Sœurs Brontë, c'est hyper sérieux. C'est y a un culte. Quand on va à Haworth, dans le nord de l'Angleterre, le village s'est arrêté de vivre à leur mort, et on est plongé dans leur univers. Il y a le presbytère, on voit leurs chambres, leurs chaussures minuscules. Je pourrais même pas rentrer ma main dans leurs chaussures. C'était c'est tragique. Des morts successives, Émilie qui meurt si jeune, qui n'a rien vécu. En réalité, elle est restée enfermée, elle n'a pas eu d'amant ou de maîtresse, elle n'a jamais embrassé quelqu'un, a priori, selon les biographes. Et elle a quand même, et c'est ça qui me plaît, écrit un immense roman d'amour. C'est-à-dire que l'expérience est pas si importante, la vie de l'auteur est pas si importante. Émilie, c'était une lectrice. Et elle a tout trouvé dans... Bah, dans son humanité, mais aussi dans tout ce qu'elle pouvait lire. Son père lui laissait libre accès à la presse. Elle lisait tous les faits divers.
On en revient donc à vous qui réussissez à trouver toute la littérature gothique dont vous avez besoin pour vous nourrir, Grégory Le Floch. Donc ça crée vraiment un très grand département de votre bibliothèque. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont la même importance, je veux dire ?
À ce moment-là, ouais. C'est grâce à la télé aussi. Il y a eu sur Arte, et là, faudrait voir, j'ai quel âge. J'ai peut-être 13 ou 14 ans.
Dans quelles années, du coup ?
Je suis né en 86, alors faudrait calculer.
99.
Voilà. Il y a un documentaire qui s'appelle Thomas Mann et les siens. Et je regarde ça. Et fascination. À l'époque, il y a des cassettes et je me mets à enregistrer en VHS le documentaire qui est en 4 parties. Je crois que je loupe une partie de du premier épisode. Et les cassettes étaient hyper sacrées, mais je les ai perdues dans des déménagements et je m'en veux. Je les trouve même pas en DVD. Et là, on voit la vie de Thomas Mann, de son frère Heinrich et surtout de ses enfants. Erika, qui m'a fasciné. Et là, je me mets à lire tout Thomas Mann. Je me rappelle, je les avais trouvés dans une FNAC et je comprenais pas tout. Franchement, j'ai lu La Montagne Magique, j'ai pas compris la fin. Ça m'a pas du tout gêné.
Parce que de toute façon, vous diriez que ça vous gêne pas de pas forcément comprendre ce que
non.
vous lisez.
Ah ouais, du tout. Je cherche pas du tout à comprendre. Le sens m'intéresse pas vraiment. En fait, c'est l'univers. C'est les émotions, les couleurs. J'ai lu Proust en première, j'ai rien compris, j'ai adoré.
Titre, t-shirt, t-shirt.
Mais Thomas Mann, oui, La Montagne Magique, c'est en lisant un résumé après, en me disant « Ah bon, il meurt, c'est la guerre, j'avais pas du tout... »
J'ai pas vu passer ça.
Non, j'ai pas vu passer ça, mais...
Mais qu'est-ce que vous voyez passer alors ?
Hans Castorp, qui passe 200 pages à mettre une couverture sur ses épaules, parce qu'il est dans un sanatorium et il doit s'allonger sur une chaise longue au soleil, il met sa couverture. Ça prend des plombes. J'ai adoré ce travail pour mettre une couverture. De grandes discussions entre les membres du sanatorium qui m'ont fasciné. Je me suis dit, ah, les adultes, ils parlent comme ça, ou on peut parler comme ça de culture, d'histoire, etc. J'avais aucune référence. Et aussi la sensation de lire un grand livre. Un livre majeur. C'est pour ça que, à ce moment-là...
Mais parce que vous en aviez connaissance? Enfin, vous saviez que La Montagne Magique de Thomas Mann occupe cette place-là dans l'histoire de la littérature ou...
Bah, il le disait dans le documentaire.
Ah bah oui, merci la télé.
Bah oui, merci la télé. Hein. Merci la télé pour plein de trucs. En troisième, je crois, je découvre Elisabeth Roudinesco dans un documentaire sur Freud. Et elle a une voix tellement spéciale. Elle avait une veste en velours vert, mais flashy. Et elle parlait de sexualité. Pareil, je suis resté fasciné. Et le lendemain, j'ai acheté Freud.
Et vous avez lu quoi de Freud ?
Bah, tout ce qui était
en poche, en petite édition.
Ouais, chez Payot. La petite bibliothèque Payot, tout ce qui, ça fait jamais plus de 100 pages. C'était pseudo accessible pour moi. Je comprenais des choses. Ça parlait de sexualité, ça m'intéressait. Et, je comprenais pas tout, mais je me rappelle, j'ai relu Freud au lycée plusieurs fois pour essayer de comprendre. Je comprenais pas ce qu'il disait sur l'homosexualité. Clairement. Et après, quand j'entendais qu'il était pionnier pour montrer que l'homosexualité n'était pas une tare, etc., je trouvais que quand même, dans le texte, c'était sacrément violent. Pareil pour Proust. On m'avait dit, Proust, auteur homosexuel, ça va être... J'attendais une liberté, mais quand il présente Charlus et Jupien qui se tournent autour comme deux oiseaux...
Vous ne vous y retrouvez pas tellement ?
Pas trop. À l'époque, je trouvais ça assez...
Et vous le cherchiez en littérature ? Vous cherchiez à lire des choses sur l'homosexualité ?
Non. Sur la sexualité, oui. L'homosexualité, ça faisait... Non, pas forcément. Ça me faisait peut-être un peu peur aussi. Vu comment Freud et Proust en parlaient, non, pas forcément. Non, mais oui, le corps, en fait. Dès qu'on pouvait avoir accès au corps, dans Zola, moi, j'étais hyper content.
Est-ce que vous avez trouvé, justement, alors en dehors de Freud, Zola, Bronté, tout l'univers gothique, d'autres territoires où peut-être, je sais pas, si on quitte la fin de l'adolescence et qu'on vous retrouve un petit peu plus tard, Grégory Le Floch, peut-être si on vous retrouve aussi auteur, est-ce que ça a changé vos territoires de lecture ?
Bah, j'ai toujours écrit, j'ai imité Émilie Brontë, il y a 6 ou 7 romans où j'imite Émilie Brontë dans l'adolescence. Donc j'ai toujours écrit en fonction de...
6 ou 7 romans écrits par vous ?
Oui. Mm-hmm. Ah oui, j'ai mes petits, hein. Mais j'imitais, j'ai toujours imité, j'adore ça. Et quand je découvre adulte Thomas Bernhardt, une claque, je m'en rappelle, c'est un...
Vous commencez par quel texte ?
Oui. Le roman qui s'appelle Oui, déjà le titre, génial. La couverture chez Folio, incroyable. Et la première phrase, en plus c'était un dimanche soir, je me suis dit, oh, je vais commencer à lire avant de dormir. Mais la première phrase, elle fait 3 pages. J'ai dû la relire 2 fois pour comprendre. Et je me suis dit, bon, il se passe quelque chose. J'ai retardé le moment d'aller me dormir. Et je crois qu'en 3 mois, j'avais lu tout Bernhardt.
Vous avez quel âge à ce moment-là?
Ben, ça devait être 2 ans avant mon premier roman. Donc, mon premier roman, je dois avoir 30 ans. Un peu plus, je sais plus. Moi, je suis pas doué pour les dates. Et,
vous voulez que je regarde en précision
et
ou on
me
s'en fiche?
Situer dans le temps. Deux, ça doit être... Non, je sais plus. Mais, ouais, on va dire 30 ans.
Trois mois, tout Thomas Bernhardt.
Bah, c'est pas, y a pas énormément.
Oui, mais enfin, quand même, il faut y aller. Je veux dire, c'est pas non plus la petite promenade, Thomas Bernhardt.
Ah ouais, mais je lis quand je me mets à lire, je fais que ça. Et, parce que, en fait, c'est un seul roman. Donc, on est frustré de s'arrêter. Et on a envie de recommencer de continuer, parce qu'en fait, c'est la même chose. Et du coup, j'écris dans la forêt du hameau de Hart, avec une langue à la Thomas Bernhardt.
Et qui est un roman qui a été extrêmement remarqué. On va parler de celui-ci, Peau d'ours, paru aux éditions du Seuil en cette rentrée d'automne, juste après Le Bout de Voleur de Feu.
Je ne suis pas ce que je suis, ou plutôt je fuis, ou plutôt je fuis. Je cherche le pôle bon et l'infini. Où l'ai-je donc mis, c'est infini. Suis-je bien ceci, suis-je bien cela? Dans l'univers infini, je me dis. Tu n'es pas ce que tu es, ou plutôt tu sais, mais au plus tôt tu sais, tu n'es qu'un bout d'éternité. Je crois que je suis pas bien défini, même quand je pense, même quand je suis. Même quand je pense, même quand je suis, je crois, je reste ainsi. Même quand je pense, même quand je suis, je crois, je reste ainsi. Nature, 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 nature est dans l'univers infini, je me dis. Tu n'es pas ce que tu es, ou plutôt tu sais, mais ou plutôt tu sais, tu n'es qu'un bout d'éternité.
France Culture. Le Book Club, Marie Richeux.
Et il suffit de tendre l'oreille aujourd'hui dans votre Book Club. Tendre l'oreille aux différentes voix de votre roman Grégory Le Floch. La voix des montagnes, la voix de la terre humide, la voix du mouflon, la voix des mains de Monsieur René. La voix de cette narration mystérieuse qui semble d'emblée nous dire que les voix humaines sont insuffisantes. D'ailleurs, votre personnage principal a avalé le nom d'une montagne, Montperdu. Et voilà ce qu'elle dit d'elle-même. Si tu veux connaître ma vie, c'est ça, 16 ans, moche et village de merde. Ça ne commence pas très bien, à ceci près que Montperdu, son nom donc, elle est capable d'entendre les montagnes et se faire entendre d'elles. Il est possible que ça la sauve, que ça nous sauve. Peau d'ours est le roman fascinant de la transformation d'un être et du monde autour d'elle. Il apparaît aux éditions du Seuil et il figure dans la sélection du prix Roman des étudiants France Culture. Je le disais, c'est pas tout à fait elle qui commence, parce que d'abord on entend les montagnes, mais ensuite, votre personnage se présente à nous.
Premier truc à savoir, je suis la seule meuf de mon âge à pas dire H24 que je m'arracherai d'ici après le bac. Les autres parlent de Toulouse, Barcelone, Paris. Moi non, moi je bougerai pas. Et même si tous les jeunes se tirent, que les vieux meurent les uns après les autres, et que je deviens la dernière habitante du village, je resterai là, aussi immobile que les rochers qui m'entourent. Deuxième truc, il y a quelques années on a vécu une avalanche exceptionnelle ici. Elle a débordé de son couloir naturel, roulé depuis le sommet, frôlé nos maisons, avant de descendre tout en bas, dans la vallée. Zéro mort. Mais au moment où ça s'est passé, je veux dire au moment où toute cette neige s'est décrochée brutalement des sommets pour s'écrouler sur nous, on pensait tous qu'on allait crever. Les gens se sont mis à courir dans tous les sens en poussant des cris affreux, sauf moi. Je suis resté à regarder la neige qui s'effondrait sur nous. Troisième truc, je fais des listes. Je pense et je rêve en liste. La plupart du temps, elles servent à rien, mais sûrement qu'au fond, elles ont une utilité. Je sais juste pas encore laquelle. Il y en a des courtes et puis des longues, genre liste des animaux que j'ai vus en montagne. 8 pages. Je te les épargne, vaut mieux, mais pour moi, c'est comme la Bible. Il y a aussi liste des trucs sexuels que je voudrais faire avec Kelly. 16 pages, pile le double. Pas fait exprès. Comme quoi, il y a moins d'animaux dans les Pyrénées que de positions sexuelles dans ma tête. Je t'en dispense aussi parce que je passerai pour une meuf sale, et c'est pas le cas.
C'est avec cette voix qu'on la rencontre, et donc impossible de ne pas l'aimer, Grégory Le Floch, Nina, qui engage direct quelque chose de direct avec nous, mais aussi avec cette espèce d'adresse mystérieuse, ce meuf à qui elle parle. Comment avez-vous trouvé, je vais utiliser des mots un peu précis, mais ce régime de parole, ce régime d'élocution?
J'ai longtemps tourné dans... En fait, dans les brouillons, je cherchais l'angle. J'avais mon personnage, mais je savais...
Vous aviez quoi ?
J'avais mon perdu. Je voulais pas faire un journal intime avec des dates. Et j'ai lu le livre du large et du long de Laura Vasquez, qui dit pour ses lecteurs « mes gros, mes grosses ». Et je trouvais ça génial, « mes gros, mes grosses ». Et elle le répète. Et je m'étais dit, oh, je vais pas...
Qui s'appuie sur cette adresse-là, qui est une adresse contemporaine, où on dit gros.
Ouais.
Gros pour dire mon pote, mon frère, mon copain, gros.
Et je trouvais ça tellement moderne, tellement fort, que j'ai voulu trouver aussi un équivalent dans un langage contemporain. Et le mot meuf, je trouve, a évolué très vite. Au début, il était un peu péjoratif, puis après, il est devenu une virgule.
Ouais, et puis hyper amical.
Ouais.
Oui, vous voulez dire une virgule, c'est-à-dire amical, puis presque insignifiant.
Ouais. Mm. Oui. J'ai des copines qui, par mégarde, ont dit meuf à leur mère. Mm. Parce que ça, c'est meuf en permanence.
Et comme genre, comme tu sais, voilà, comme tu vois, meuf. Mm.
Et je trouvais que l'idée de mettre meuf en permanence allait devoir faire quelque chose de singulier pour certains lecteurs, au masculin. C'est-à-dire qu'ils allaient devoir se mettre dans la peau.
Être la meuf.
Ils allaient devoir être la meuf. Et en fait, on y arrive très bien à être meuf.
Voilà. Il y a quelque chose de particulier au départ, c'est que cette Nina ne veut pas partir, contrairement à tout le monde. Elle a beau s'ennuyer, ça a beau être dur, cette ville au village, l'idée qu'elle est isolée pour plein de raisons, elle veut rester. Le partir viendra plus tard dans le roman, Grégory Le Floch. En quoi est-ce que ça fait d'elle un être singulier, en plus de ses autres singularités ?
Elle a ce rêve quand même, il y a quelque chose au fond d'elle qui dit « Ah, mais si je pouvais partir, etc. » Mais elle sent que c'est impossible parce que elle est certes une habitante du village, mais elle est avant tout une montagne. Mm. Elle a ce nom, ce surnom qu'on lui donne, Mon Perdu. Elle est née sous le nom de Nina, qui veut dire la petite, ce qui lui convient pas du tout. Tout le monde l'oublie, même elle. Et Mon Perdu, c'est une montagne pas très belle, mais très grosse, qu'on voit depuis le village. Et évidemment, elle sent une telle connexion, elle se sent ancrée, elle est pierre. Une grosse montagne ne peut pas bouger. Elle fait partie du village. Elle fait partie de ce paysage. Elle ne pourra pas en partir, donc elle va devoir faire avec.
Et puis après viendront les mouvements de transformation. Au départ, d'une certaine manière, on peut dire que vous faites un roman d'une ville, même s'il y a ça, c'est-à-dire qu'elle, même si elle s'appelle Mon Perdu, même si on a la voix des montagnes, on peut entrer dans votre roman comme dans le roman d'adolescence, d'une jeune fille qui est amoureuse de Kelly, qui va par mégarde lui déclarer sa flamme, se retrouver en galère au milieu de ses camarades, vivre la honte, être dans l'ennui. On a l'impression presque qu'au départ, ça va être ça, le roman. Est-ce que c'était l'une des ambitions avant que ça vire, Grégory Le Floch ?
Ouais, je voulais, dès le début, associer un monde hyper archaïque, ancien, un peu conte, le village de haute montagne. On pourrait ne pas le situer historiquement. Et une fille ultra contemporaine, au milieu de ça, au milieu de cette tradition de la fête de l'ours, avec Instagram, qui parle avec une langue de jeunes, parce que Il y a plein de jeunes qui vivent dans des tout petits villages reculés et des villages qui vivent pas en 2025, qui sont à des années-lumière du monde hyper contemporain que ces jeunes trouvent sur les réseaux sociaux. Et il y a une sorte d'écartèlement qui n'est pas facile à vivre. Avant, les jeunes avaient peut-être une langue commune avec le village, un patois, etc. Mais maintenant, les jeunes, ils parlent la langue nationale des jeunes, même s'il va y avoir des petites particularités régionales. Mais ça a totalement disparu.
Une langue qui circule à vitesse grand V, justement, sur les réseaux sociaux sur lesquels ils sont connectés.
Et ça m'intéressait. En fait, je voulais mettre une fille complètement comme de la dynamite. En fait, cette fille, c'est de la dynamite.
Au milieu de la pierre.
Ouais, et au milieu du village patriarcal, archaïque, où il n'y a que des hommes et les femmes elles font ce qu'elles peuvent. Et on va lui demander d'avoir un rôle important et pour tout faire péter.
On va y venir à ce rôle important, mais encore une fois, donc on a parlé de sa singularité, son surnom, Mon Perdu. Peut-être on doit parler un peu de son corps, Grégory Le Floch, et de la place qu'elle occupe dans sa famille. Comment on peut dire l'un et l'autre ?
Son corps, c'est ultra important. Elle est avant tout un corps, et tous mes personnages sont des corps, avant d'être une psyché. Ce sont des corps, moi je les vois. Donc Mon Perdu est très grosse, très très grosse. Et ça me plaisait beaucoup. Emmanuel Bayamakta a aussi des personnages très très obèses et Sharon par exemple que j'adore, c'est qui est Mon Perdu et vraiment inspiré de ce genre de personnage. Parce que moi aussi j'aime le baroque, j'aime les formes qui débordent, j'aime pas forcément la ligne droite et je savais que c'est un symbole en fait ce personnage trop gros qui ne rentrera pas dans la petite case où on veut l'enfermer.
Y compris dans sa famille, c'est-à-dire que dans sa famille aussi, elle déborde des cases où elle pourrait être, et ce débordement fait régner autour d'elle une sorte de gêne, de honte. Peut-être même qu'elle se figure plus fort la honte de ses parents qu'elle n'est réellement.
Bah parce que ses parents, ils font ce qu'ils peuvent avec une éducation hyper genrée. La mère veut l'habiller en fille, en rose, avec des jupes, sauf que Mon Perdu, elle s'habille en 5 ou 6 XL. Donc ça n'a aucun sens, Mon Perdu, ça lui plaît pas du tout. Et la mère est dans une lutte totale, mais presque dans un dégoût de sa fille, parce qu'elle la comprend plus à cause de cette éducation genrée, et au point que le corps de la mère se détourne de Mon Perdu. Il y a tout son visage qui, pour plus voir sa fille, elle préfère tourner le visage. Le père, c'est différent. Alors le père, évidemment, il comprend pas sa fille. Je pense que ça doit pas être facile pour des parents d'avoir un enfant comme Mon Perdu. Et des enfants comme Mon Perdu, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà croisé, ça existe. Et le père, il est perdu, il la comprend pas. Mais il y a quand même des... Et c'est ça que j'ai vraiment voulu faire dans cette relation parent-enfant. C'est très compliqué.
Mais il y a des moments où ils marchent ensemble, par exemple.
C'est ça. Il y a des gestes. En fait, il n'y a pas de mots, ils n'arrivent pas à se parler, mais il y a des gestes. Le père va faire un grand geste horrible, mais qui montrera qu'elle l'aime, qu'il l'aime. Et la mère va petit à petit... montrer de l'affection. Il y a une grande scène où, malgré tout, il se retrouve sur le canapé, s'enlace, dans le silence. Parce que, tout d'un coup, il y a un moment d'acceptation. Mais parce que l'adolescence, je pense que ça évolue tellement vite. Une famille avec un adolescent, c'est comme des plaques tectoniques qui bougent à toute allure.
Il faut se mettre à l'heure, hein.
Il faut se mettre à l'heure et ça ne marche pas toujours. Et il y a eu ce moment dans le roman où, clac, les plaques tectoniques étaient alignées et ils ont pu s'enlacer.
Vous le disiez tout à l'heure, c'est un village qu'on n'est pas obligé de situer, ni dans le temps, ni dans l'espace. En revanche, la présence des montagnes, celle des rivières, celle des animaux est très forte pour votre personnage principal, Grégory Le Floch. C'est ce qu'a retenu Sandra. Elle vous interroge sur votre propre rapport à la nature.
Bonjour le Book Club. Bonjour Grégory Le Floch. J'ai vraiment vibré pendant ma lecture de Peau d'ours. J'y ai retrouvé votre écriture qui continue vraiment de me fasciner. Parce que vous réussissez à établir vraiment un lien étroit entre la nature et ceux qui font corps avec elle. La nature, elle guide dans vos romans, elle libère les êtres qui sont étouffés, angoissés, comme Mon Perdu. Et je voulais justement savoir quel rapport vous entretenez avec la nature et est-ce que vous puisez dans votre propre relation à elle pour nourrir le parcours de vos personnages de fiction. Je vous remercie pour votre réponse et je vous dis à bientôt, le Book Club.
Merci Sandra pour cette lecture et pour cette question. Grégory Le Floch.
C'est capital parce que j'arrive à me lancer dans un roman quand j'ai trouvé le morceau de nature où ça va se passer. Le premier roman, c'est dans la forêt noire. Gloria, Gloria, c'est les rivages, les plages italiennes, l'île d'Elbe. Donc ça, en fait, ça crée des images, ça crée une histoire parce que dans la forêt noire ou sur l'île d'Elbe, il y a pas les mêmes personnages, on ne parle pas pareil, les corps sont différents. Et là, quand j'ai trouvé la montagne, c'était bon, ça s'était lancé. Alors, c'est pas forcément mon rapport personnel à la nature, c'est mon rapport de lecteur à la montagne. J'adore les romans de montagne.
Bah, on revient à Thomas Mann et
La Montagne Magique.
À La Montagne Magique.
Mais surtout, l'année avant l'écriture de Peau d'ours, il y a eu Irénée Sola, au Seuil. Je vais mal dire le titre, mais c'est Je chante et la montagne danse, si je me trompe pas. Et elle a un rapport à la montagne. La montagne est un personnage, ça m'a vraiment transporté. Il y a eu aussi deux autres autrices qui ont un rapport à la montagne et à la nature hyper fort. Une Inuite, Tania Tagak, qui est une chanteuse de gorge. Mmh. Et je me suis inspiré un peu de ce travail du chant de gorge avec Mon Perdu. Il y a des éléments qui passent dans sa gorge, qui a écrit Crofendu. Et Crofendu, c'est vraiment un roman. C'est sorti le jour du confinement, donc ça n'a pas eu le retentissement que ça aurait dû avoir, mais c'est un livre, un chef-d'œuvre.
Vous citez beaucoup, pour parler de votre propre écriture, d'autres textes, Grégory Le Floch. Déjà, d'une part, c'est très généreux, mais ça révèle aussi que votre écriture, elle est en permanence irriguée des autres.
Toujours. Toujours, toujours. J'écris avec des livres autour de moi et je passe mon temps, pendant que j'écris, à aller voir. Et là, je suis en train de commencer à écrire quelque chose d'autre. On verra si ça tient. Mais j'ai sorti tout Virginia Woolf et Yon Foss et je reviens. Et...
Oh, ça va être bien. Déjà, ça va être bien. Non, déjà, le vivre, ça va être bien.
En tout cas, j'espère. Mais voilà, en fait, mon rapport à la nature personnelle n'est pas si important que ça. C'est ce que je trouve dans les livres qui m'intéressent.
Il y a un chapitre qui s'appelle « Emotional Landscapes », l'idée d'avoir des paysages émotionnels. On sent bien aussi que ce sont des surfaces de projection, c'est cette présence du vivant, la montagne. Vous ne le vivez pas comme quelque chose d'extérieur, en tout cas vos personnages ne le vivent pas comme quelque chose d'extérieur.
Non, 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 de toute façon, mes personnages... Alors si, Mon Perdu, elle est... une montagne vraiment, donc c'est dans sa peau, dans ses veines, dans ses cheveux. Et quand j'ai, dans mes tout premiers brouillons, quand j'avais trouvé le nom Mon Perdu, j'avais fait une accolade et j'avais mis être total, j'avais marqué humaine, animal, montagne, liquide. J'avais pas trop, mais je voulais qu'elle soit liquide, donc rivière. Parce que son corps est pas forcément un corps d'humain. Et à un moment dans le roman, elle attrape une truite qui est en train de se reposer dans une rivière, c'est une truite arc-en-ciel. Et moi, je visualise vraiment Mon Perdu comme une truite, c'est-à-dire que elle échappe, c'est-à-dire comme un savon. On veut dire qu'elle est humaine, pof, elle est déjà allée dans une autre catégorie.
Il y a quelque chose d'insuffisant dès le départ, je le disais, les humains sont trop insuffisants et séparer les choses le serait aussi. On parle d'un rituel, vous parlez d'un rituel, Grégory Le Floch, dans ce village, c'est la fête de l'ours. Cette fête pendant laquelle on va revêtir une peau d'ours, on est allé chercher un reportage.
Donc, la tenue, c'est une chasuble en toile de jute.
Oui, toile de jute, hein, et on va coudre la peau par-dessus. Pour éviter que la peau se déchire et que ça parte dans les roulades et dans les bousculades.
Donc il est équipé de bottes et de peaux, ça.
Voilà.
Donc c'est un ancien du village qui habille le jeune qui va faire l'ours cette année. Les anciens supervisent énormément cette préparation. Les jeunes sont très excités. Il y a une solidarité entre les différentes générations.
Les chasseurs là-haut.
L'excitation monte tout doucement parmi ces jeunes. Mais c'est un début très très gentil par rapport à ce qui nous attend pendant la suite de cette fête de l'ours.
Vous nous protégez là quand même.
C'est de la couture peau sur peau.
Oui, c'est le cas de dire peau sur peau. Avec une petite bourrelle en plus, c'est sûr que ça sera peau sur peau là. Non mais ils n'ont pas peur. Hein. On fait doucement quand même. Voyons, on m'alimente en même temps.
On équilibre avant de passer sur les bras. Hey hey
Thank you.
Une colère monte en moi que je soupçonnais pas. C'est comme un feu souterrain qui explose tout à coup. Je repense à la femme de vieux René qui s'est barrée le soir de la première fête de l'ours. « Je pourrai plus jamais coucher avec toi », qu'elle lui a dit. « Plus jamais ». Je vois la scène comme si j'y étais. Je sens la tristesse infinie de vieux René, sa vie qui s'effondre, son cœur qui se brise, et la peur immense d'être seul. Mais meuf, vieux René est devenu le mec le plus imbaisable de la Terre, parce que ça te prend tout le corps et l'esprit quand tu fais l'ours dans ce village. Ça te transforme, et tu te mets à grogner, à pisser, à chier comme un ours. Et c'est comme ça ici. On te sacrifie pour le grand kiff des autres. On te dit que c'est un honneur, et limite on te refile une médaille en faisant comme si on t'admirait. Mais en vrai, tu les dégoûtes tous. Et surtout les meufs, qui hurlent quand tu t'approches d'elles. T'es devenu un monstre pour que les autres se sentent un peu moins monstres et un peu plus humains en comparaison de toi.
Un extrait de votre roman « Peau d'ours », Grégory Le Floch, et juste avant, un reportage sur une fête de l'ours en 2001, avant qu'on en vienne à ce que comprend votre personnage Nina Montperdue au moment où elle va revêtir elle-même la peau de l'ours, et ce qu'elle comprend aussi de ce vieux René qui a longtemps été celui qui faisait l'ours. Peut-être, qu'est-ce qui vous intéresse à la fois dans ce rituel-là, et puis plus généralement dans le fait de vous emparer dans ce roman-là d'anciennes choses, d'anciennes histoires, de récits archaïques, de façons de vivre archaïques?
J'ai tout d'abord découvert une photo. C'était dans le livre de Charles Frégé, Wildermann. Il y a 3 pages sur la France. Et c'est, on voit un homme dans une peau d'ours et on voit ses yeux à travers la peau d'ours noire et la montagne derrière. J'ai été fasciné. Je me suis dit que j'allais en faire quelque chose. Et après, je suis tombé sur des vidéos de la fête de l'ours. Et c'est hyper violent, mais artistique. Et moi, j'aime bien la violence en art. Je trouve que c'est fascinant, c'est cathartique, donc on regarde. Là, dans le reportage, on entend les coups de feu, des cris, c'est des voix masculines. La fête de l'ours, il s'agit d'abattre un ours, symboliquement. Mais avant que les bergers ou les hommes puissent abattre cet ours a, dans des simulacres, violé les filles du village. Et tout ça avec des marques de suie sur les joues des femmes, elles sont toutes marquées. Il y a une frénésie, une transe qui s'empare du village, mais c'est chorégraphié. On sait à quel moment il va apparaître, on a l'impression que c'est un immense bazar, mais c'est une vraie chorégraphie. Et une catharsis. Alors aujourd'hui, on m'a dit que c'était devenu hyper touristique. Il y a plein de touristes qui viennent, qui doivent un peu, je pense, gâcher la chose. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est que cette fête de l'ours qui est ancestrale, alors on dit depuis la Renaissance, mais en fait, c'est sûrement depuis le Moyen-Âge et sûrement depuis l'Antiquité, c'est en nous parce que c'est l'homme qui fête à la fin de l'hiver le fait qu'il a survécu aux prédateurs.
Et aux températures froides.
Et aux températures. Et donc, c'est j'ai survécu, quoi.
Donc, c'est une fête de la vie, c'est une fête de renaissance à la vie. Et paradoxalement, en effet, votre personnage, Montperdue, qui est un peu perdu et qui n'est pas au moment le plus vivant de son existence, Grégory Le Floch, il y a quelque chose qui va la faire revenir à la vie à partir de ce début de métamorphose rituelle, et puis ensuite métamorphose un peu plus, on va dire... comment dire, sans trop le dévoiler, mais pileuse et oui. Réelle d'une certaine oui. manière. Ouais. C'est-à-dire que de ce rituel, son corps va véritablement se transformer.
Oui, mais de toute façon, c'était déjà amorcé. Les choses étaient là. Et ce qui m'intéressait, c'était que... Alors moi, la métamorphose, ça m'intéresse. De Bayam Akhtam, elle aime les métamorphoses. Il y a Ovid, il y a Kafka. C'est le plus beau thème en littérature. Et de toute façon, je crois que c'est Emmanuel Bayam Akhtam qui le dit. Chaque roman met en scène une métamorphose. Alors ça peut être très visible ou pas visible, mais il y a toujours... On part d'un point A et on va à un point B. Il y a forcément une métamorphose. Et moi, là, je voulais vraiment le montrer parce que ça m'intéressait, c'est spectaculaire. C'est ce moment de l'adolescence où on supporte pas son corps. Et Montperdue se transforme, s'animalise, ce qui fait qu'elle va être rejetée. Mais au moment où le village va comprendre qu'elle va peut-être pouvoir jouer le rôle traditionnel archaïque du monstre, tout d'un coup, tout le monde va l'accepter. C'est que dans une petite société, un petit village, tout le monde doit avoir sa place. Et au début, mon perdu, elle a pas sa place, donc elle irrite. On veut la mettre de côté.
Mais si elle peut être officiellement le monstre, alors ça va.
Voilà, c'est ça.
Il y a d'autres récits archaïques ou figures archaïques dont vous vous emparez, Grégory Le Floch, la femme sauvage, la sorcière, la grotte, même aussi l'idée d'une sorte de femme vierge, mais qui pourrait presque s'auto-suffire ou s'auto-engendrer. Il y a des scènes de masturbation, de plaisir sexuel dans la nature où on a l'impression que ce corps semi-humain n'aura presque plus besoin d'autres humains et à peine de sa propre main ou de son propre corps pour ressentir du plaisir tellement la circulation du vivant en elle produit une forme de jouissance. Qu'est-ce que vous poussez, quel curseur vous poussez là et qu'est-ce qui vous intéresse?
C'était la casser les frontières. Et mon perdu, et c'est la citation que j'ai mis en exergue de Preciado, je suis la multiplicité du cosmos. Mon perdu, elle a brisé toutes les frontières, ce qui fait qu'elle va pouvoir tenter de s'enterrer dans une grotte, avoir les insectes sur elle, être au fond d'une rivière et jouir de son corps. Mais alors, c'est pas des scènes sexuelles, en fait, elle jouit de son corps comme le chevreuil ou comme les oiseaux vont jouir de leur corps parce que, à un moment, elle est dans la montagne, c'est le printemps, et elle sent que la montagne est en rut. Elle voit des couleuvres faire l'amour sur son chemin, tout enlacé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des couleuvres ou des photos.
Non, c'est pas possible.
C'est hyper impressionnant.
Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de couleuvres, il n'y a pas de cohabitation entre moi et les couleuvres.
Mais par exemple, mon perdu, elle voit des nuages de pollen. Mais ça, c'est aussi de la sexualité, des nuages de pollen. Et mon perdu, elle va jouir de son corps, comme le chevreuil va jouir de son corps, de façon hyper naturelle, et je trouvais ça très beau. C'est totalement en dehors de toute morale, et mon perdu, elle s'embarrasse.
Loin de sa première honte aussi, loin de la première, c'est-à-dire qu'il y a, aussi une découverte de son désir, de la sexualité, de sa possibilité aussi de dire son désir, en l'occurrence homosexuel, qui la recouvre de honte, c'est très violent, c'est très dur pour elle, et il suffit qu'elle ait posté un petit message sur les réseaux sociaux, et d'un seul coup, elle est comme... Oui, retirée à la possibilité d'aimer et désirer, alors que là, vous la montrez dans une expansion totale de son amour et de son désir.
C'est qu'elle n'a pas sa place dans le jeu social des humains. Parce que le roman s'ouvre avec ce message qu'elle envoie un peu... On a tous fait ça, envoyer un message et 3 secondes plus tard, on le regrette. Et c'est la grande tragédie du 21e siècle, ces messages qui partent et qu'on aimerait retenir 1 seconde plus tard. Je pense que c'est vraiment hyper important dans notre monde. Et elle a fait ça, il est tard, c'est Instagram. Kelly a mis des photos d'elle, elle a l'impression que c'est pour elle. Sauf que Kelly s'affiche sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, Kelly l'affiche, elle, sur le monde, dans le monde entier. Et elle va recevoir des milliers et des milliers et des milliers de messages haineux, lesbophobes, grossophobes, mais... Et je pense que ça, c'est peut-être la partie la plus réelle du roman, même si ça paraît peut-être complètement absurde, mais si son téléphone explose.
Vous citez le nom de Paul Preciado, écrivain et philosophe, on l'entend ici dans une archive, de 2019 au micro d'Augustin Trapenard.
Le langage, pour moi, c'est ce qui est le plus important, en fait. Je pense que ce qui m'a rendu vraiment libre, en fait, c'est la langue. J'ai d'abord imaginé la transformation, j'étais capable de la vivre après. Je pense que j'ai eu besoin d'écrire pour être capable après de vraiment prendre la testostérone jusqu'au bout. Donc, dans ce sens-là, pour moi, la langue, c'est comme si la langue était un instrument d'action directe pour moi, en fait, si on pense à la langue politiquement. Créer un mot, inventer un mot, c'est vraiment un instrument de transformation révolutionnaire.
Alors vous disiez, Emmanuel Bayamaktam pense que tout roman est un livre de la métamorphose. On entend ici Paul Preciado parler de la transformation qui a presque d'abord eu lieu par le langage. C'est parce que je peux l'écrire, c'est parce que je peux l'imaginer qu'ensuite je peux transformer mon genre chimiquement et avec les hormones. Il y a quelque chose de très puissant dans l'usage que vous faites de la langue, Grégory Le Floch, c'est-à-dire que à la fois ce roman, il invente un monde, mais il le fait aussi avec les outils du langage, quoi. Est-ce que vous diriez, comme Preciado, qu'il y a l'idée d'une action directe et d'une action d'émancipation?
Oui, totalement. Moi, j'adore tout ce qu'il dit, hein, sur le genre, il parle d'une grande mutation en cours, moi ça me fascine, il parle de, surtout de révolution.
Il parle vraiment d'une révolution épistémologique, à chaque fois il dit, notamment en suivant Wittig, qu'il y a quelque chose dans le système hétéropatriarcal qui se trouve chahuté, très fortement chahuté.
Et tout se fait dans la langue, il a raison, c'est le problème de la binarité des sexes, du sexe, du genre, il, elle, monsieur, madame, c'est insupportable de...
Vivant humain non humain, on pourrait rajouter avec votre roman.
C'est ça. Et Mon perdu, je crois qu'elle est même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on peut la genrer au féminin, on peut la genrer au masculin, elle n'en a rien à faire. Quand Vieux René la genre au masculin, elle trouve ça très bien, mais elle va pas forcément demander aux autres de le faire. On la genre au féminin, très bien, mais elle sait que la langue va échouer à l'identifier. Elle s'en fiche de l'identité. Et en exergue, j'ai mis « Je suis la multiplicité du cosmos », mais j'aurais dû citer plus large.
La phrase de Preciado.
Ouais. Au-dessus, dans la ligne du dessus, c'est « Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas bisexuel, je suis un dissident du système sexe-genre. » Je suis la multiplicité du cosmos.
C'est tout un programme.
C'est hyper fort. Et c'est clair que moi, j'aimerais qu'on tende tous vers ça. Qu'on arrête de s'enfermer dans des étiquettes rikiki, des cases insupportables, minuscules, où on étouffe. Et Mon perdu, moi, je crois qu'elle me fait du bien parce que elle est au-delà. Elle ne réfléchit plus en cases. Elle ne réfléchit même plus en espèces. Elle vit librement tout ce qu'elle a envie de vivre. Et... je suis hyper content d'avoir vraiment trouvé ce personnage qui est la mutante, en fait. Mmh. C'est une mutante.
Oui, et généralisée. C'est une mutation qui est très forte et qui est assez générale. Grégory Le Floch, est-ce que vous diriez, comme Paul Preciado, que le langage, c'est plus qu'un laboratoire pour ça, c'est une action directe? Écrire, c'est une action directe dans le cadre d'une grande mutation que vous appelleriez de vos voeux?
Oui, parce que même nommer mon personnage, je crois que j'ai dû mettre 3 mois à trouver le...
Mon perdu.
Mon perdu. Parce que je suis fan de Marie-Claire Blais, qui a des noms de personnages incroyables, et notamment Petite Cendre. Et Petite Cendre, c'est un travesti qui me fascine. Moi, je vis avec Petite Cendre. C'est des personnages incroyables. Et Petite Cendre, c'est aussi un mutant. Et il est déjà dans cette révolution en marche. Et Marie-Claire Blais, elle l'a inventé il y a bien longtemps. Tout le monde devrait relire ou lire Marie-Claire Blais. C'est fabuleux. Et je me suis dit, je veux un nom aussi fort que Petite Cendre. Un nom pas genré. Et avec cette finale en U, on peut pas dire masculin ou féminin. Et déjà, la révolution, elle est dans ce nom, mon perdu.
On va écouter un autre extrait de votre texte.
Le moment qui arrive était gravé en nous depuis des millénaires. C'était inévitable et nous le savions. Par erreur, les humains tentent de lire l'avenir en observant le ciel. Vous ignorez que l'éther au-dessus de vos têtes est infiniment vide. Rien n'y vit. Tout se trouve en réalité sous vos pieds, dans la roche même qui vous soutient depuis votre naissance. Là se trouve le secret de vos destinées. Dans les torsions, les contractions, les creux de la pierre se cache votre avenir. Ce que notre petite sœur s'apprête à vivre dans les prochaines minutes était lové au fond d'une de nos anfractuosités. Personne ne s'y est jamais aventuré, et pourtant il aurait suffi que l'un d'entre vous passe le doigt sur les rainures de nos parois ou le feuilletage de nos corps pour lire et comprendre ce qui se prépare sous nos yeux. Mon perdu devait subir la haine afin qu'advienne ce grand événement qui marquera l'histoire. L'eau qui pénètre à travers l'épaisseur de nos chairs en avait depuis longtemps répandu le secret à la surface. Il y aura vengeance. C'est écrit dans le lit des torrents. Et cette vengeance sera aussi belle que de la musique.
Il y a dans le monde, en écoutant cet extrait de votre roman, Grégory Le Floch, déjà l'inscription de la révolution en cours, il y a déjà l'idée que oui, l'ascension d'une montagne nouvelle va arriver, est là, est prévisible, et finalement ce que vit Montperdu et ce que vit le village autour d'elle n'est que la réalisation d'une forme d'oracle, d'une certaine manière. Est-ce que ça vous intéressait, puisqu'on parlait de la façon dont vous traitez les formes antiques aussi, les formes de récit, d'aller vers cette idée-là qu'il y a quelque chose d'inscrit, et oui, nous sommes juste spectatrices de la réalisation de cette inscription.
Bah oui, moi je suis toujours fasciné par les textes de Sophocle, avec ce fatum, le destin qui s'abat. On commence, on sait que un tel va tuer ses enfants, un tel va mourir, un tel va coucher avec sa mère, tuer son père, et la machine qui se met en marche, je trouve ça fascinant. Et j'avais envie de hisser mon personnage un peu à la hauteur de ça, du mythe, parce que et ces montagnes jouent le rôle du cœur. Les montagnes.
Oui, j'allais y venir justement sur les voies, ouais.
Elles sont immenses, donc elles voient le passé, elles voient l'avenir. Elles savaient que Montperdu allait naître. Elles savaient pourquoi. Elle devait naître. C'est pour ça quand Montperdu, alors évidemment, elle tâtonne. À un moment, elle se dit, je veux devenir une ermite. Je suis faite pour être une ermite. Je suis sûre que la montagne a creusé une grotte quelque part juste pour moi. Donc, elle cherche la grotte. Évidemment, la montagne, elle a creusé des grottes pour elle. Donc, elle s'y met. Mais tout de suite, elle est rejetée au bout de 24 heures. Parce que non, c'est pas ça que tu vas devoir faire. Il va falloir que tu nous venges. Montperdu, t'es là pour nous venger. Une grande vengeance. Et en fait, dès le début, on peut sentir que ça va mal se passer. Et moi, c'est ça qui me plaisait.
On va pas en dire davantage sur cette grande vengeance, mais simplement dire que cet être-là qui est devenu mi-animal, mi-humain, dont on a dit qu'elle pouvait jouir de son corps presque par la nature ou dans la nature, il va y avoir un être, un petit être, qu'elle pourrait embarquer avec elle, mais qui serait pas totalement un être qu'elle aurait engendré. Il y a quelque chose de la transmission et de comment se passe la transmission, comment se passe la suite, puisque la vengeance est une chose, mais comment se passe la suite dans un monde où tout a été transformé, comment se passe... Alors, je sais pas comment vous l'imaginez, Grégory Le Floch, est-ce que c'est de la filiation? Est-ce que c'est juste l'être qui vient après? En tout cas, vous ouvrez votre roman sur cette grande question-là. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dessus? Vous avez vu comment je galère pour essayer d'en dire sans trop en dire?
C'est oui. Et je vais galérer aussi. Mais c'est vrai
qu'en tout cas, vous plantez cette graine-là, c'est le cas de le dire.
À la fin, je retrouve avec un enfant.
Ok, bon, voilà, vous y allez alors.
Mais à la main, ouais. Voilà. Et cet enfant, je me suis longtemps posé la question de son avenir. Parce que je suis pas du tout littérature avec des enfants. Et je crois que quand il y a des enfants dans un livre, j'ai un mouvement opposé. Ça m'irrisse. Mais cet enfant...
Pourquoi ?
Je sais pas.
Comme ça, voilà.
J'aime pas.
Ok.
Dans De parcourir le monde et d'y rôder, mon personnage jette les bébés par la fenêtre des trains.
Voilà, comme ça c'est fini. Ouais.
C'est fini. Et je crois qu'on a besoin de se libérer des enfants. Des petits-enfants. Mais c'est horrible de dire ça, mais...
Mais en même temps, là, vous faites un geste inverse.
Là, oui. Mais j'ai hésité. Ça aurait pu, le bébé aurait pu mal finir, mais Montperdu était capable de dépasser ça. Et alors, le roman est toujours à la frontière du réel et du fantastique, sans vraiment choisir. Et à la fin, on bascule, clairement. Et je ne suis pas un auteur de fantastique. Je connais pas les codes, je maîtrise pas, je me sens pas capable de plonger totalement. C'est pour ça que je peux ouvrir une fenêtre fantastique et au lecteur de poursuivre que va faire Montperdu.
Avec cet enfant dans la main. Le book club continue. À cette heure-ci, dans le Book Club, on se fait agenda, on vous donne des rendez-vous avec le livre, la lecture, des ateliers d'écriture, des résidences. Alors, on a parlé de ce grand prix roman des étudiants France Culture. Vous êtes sur les routes et en rencontre avec les étudiants et les étudiantes, en plus de vos rencontres en librairie, Grégory Le Floch. Et puis, on voulait aussi évoquer un colloque. Le Centre de Recherche et d'Information sur la Littérature pour Jeunesse organise le colloque Imaginaire et Réalité du Monde Rural dans la Littérature pour la Jeunesse. Il y a peut-être des enfants dans ce livre-là, Grégory Le Floch, désolé. C'est le vendredi 21 21 et 22 novembre 2025 dans les locaux du Crous à Paris. Et la réflexion engagée questionne les représentations du monde rural présentées par les productions littéraires pour la jeunesse, patrimoniales ou contemporaines, à travers des imagiers, des documentaires, des contes, des albums, romans, etc. Il s'agit de, en gros, aller des images d'Épinal de la ruralité aux réalités d'une production agricole fortement modernisée et mécanisée. Le projet du CRILJ, c'est de regarder comment cultiver la terre, élever des animaux, faire évoluer les techniques agricoles, à modeler les paysages, transformer les modes de vie et imprégner la langue et le langage. Évidemment, il sera question du travail contemporain, des autrices, des illustratrices, des éditeuristes, et qui rendent compte de tout ça dans des publications destinées aux jeunes lectorats. Plus d'informations sur le colloque pour y assister ou se tenir informé sur la page du Book Club franceculture.fr.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il y a un jeu dans le Book Club qui consiste à chercher la musique partout où elle se trouve dans les livres, et on est gâté avec le vôtre, Grégory Le Floch. Voilà, il y a cette musique qui est quasi omniprésente, le titre des chapitres dont on se dit que ça pourrait presque être une playlist d'une certaine manière. Comment est-ce que vous avez pensé la musique dans ce roman-là ?
Comme un appui, en fait, il faudrait relire tout Björk. Björk, c'est une autrice. Et il faudrait que tous ces textes soient publiés dans un livre, un très beau livre, parce que c'est fabuleux ce qu'elle raconte. C'est pas que des textes pop. Il y a en fait dans les textes de Björk, il y a tout mon roman. Il y a vraiment tout le rapport au corps, le rapport féminin, cette fluidité entre les genres et les espèces, la montagne, l'écologie, l'immense violence. Björk est hyper violente. Moi, je crois que j'ai découvert Björk. C'était aux 20h, et elle agressait une journaliste en sortant d'un aéroport. J'avais trouvé
image.
Ça fascinant. Mmh. Hyper violente, une toute petite Björk.
On se quitte donc avec un extrait de Peau d'ours, et Björk apparaît. Je grimpe sur une plateforme. Dès que je peux, je pose les mains sur les parois pour sentir le bourdonnement. Je voudrais que ma vie se résume à ça et rien d'autre. Je m'allonge au soleil. Dans mon dos, je sens un battement. Ça me remplit. Boum, boum, boum. Je reste longtemps à écouter ce qui pulse du fond de la montagne, comme un tambour qui monte vers le ciel. Je sors mon tel, mets les écouteurs Björk à Topos. Le morceau le plus techno qu'elle a fait de sa vie. Le pouls de la terre s'accélère pour se caler sur le rythme de la chanson. Une grande joie se répand dans le sol. Je suis happée comme si une bouche m'avalait. Je mets plus fort. J'enlève le mode protection des oreilles. Le son explose, perce mon cerveau. Un gros lézard s'approche de ma cuisse. Sa langue m'effleure. Il escalade mon genou. Je ferme les yeux et plonge dans la rave de Björk. Des vagues de chaleur montent de la pierre et le long de mes membres. Je roule le bas de mon t-shirt jusque sous mes boobs. Mon ventre brûle au soleil, ma peau dans l'air chaud. Are these not just excuses to not connect? Our differences are irrelevant. Grégory Le Floch,
merci
d'avoir été avec nous pour parler de Peau d'ours, paru aux éditions du Seuil. Au son, c'était Paul Guig. Et il y avait aussi Lorbeau, hein, qui a réglé votre micro tout à l'heure. À la réalisation, c'était Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser, préparer, programmer ces émissions. Cyril Marchand, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Garance Roubieux, Mathilde Wagman et Alexandra Laibegovic, avec qui vous poursuivez la conversation sur le compte Instagram du Book Club.